je me propose simplement de vous parler de l'exposition, de son pourquoi, de son comment, et de parcourir un petit peu les thèmes qu'elle aborde, et puis à l'occasion éventuellement retracer l'histoire du livre pour enfants en France. Alors tout d'abord, le pourquoi de cette exposition à la Bibliothèque nationale de France en 2008-2009. Je dirais que l'origine de l'exposition, elle a deux événements. Le premier qui est survenu en 2005, qui était un petit peu inattendu, qui a été l'entrée du don babar, comme on l'appelle maintenant. Le don babar, c'est-à-dire que les enfants de Jean de Brunhoff, le créateur donc de Babar, ces trois enfants ont donné à la Bibliothèque nationale de France un ensemble de documents originaux préparatoires à trois albums de Babar. Alors dans l'ordre, le deuxième album qui est le Voyage de Babar, publié en 1932, Les Vacances de Zéphyr, publié en 1936, et le dernier qui n'est pas de Jean mais de Laurent, qui a continué l'œuvre du père après la Seconde Guerre mondiale, et qui est Le Château de Babar, publié en 1961. Donc à chaque fois, on a des aquarelles originales, des esquisses, des dessins, parce qu'il a procédé de deux manières. Pour les premiers albums, il dessinait directement les aquarelles qu'il donnait à l'imprimeur. Donc très souvent, en annotant pour le rendu des couleurs, il était très 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 pointilleux. Un peu plus tard, pour les albums suivants, il a dessiné les dessins à la plume qu'il a donné à l'imprimeur. L'imprimeur lui a renvoyé les tirages au trait et il a fait la mise en couleur sur les tirages. Donc c'est un ensemble de documents exceptionnels. C'est le premier grand don d'originaux dans le domaine du livre pour enfants à la Bibliothèque nationale de France. Il y avait certes Hetzel précédemment, mais Hetzel est un éditeur certes l'un des plus importants dans l'édition pour enfants, mais qui a aussi édité des livres pour adultes. Donc ça c'était le premier événement. Et le second événement, ça a été le rattachement de la joie par les livres à la Bibliothèque nationale de France. Alors la Joie par les livres est une association qui était rattachée, ou qui était plus exactement sous tutelle de la DLL, donc Direction du livre et de la lecture, au sein du ministère de la Culture. Et la Joie par les livres avait deux entités. D'une part, une bibliothèque pour enfants pionnière qui a été créée dans les années 60 à Clamart. Voilà. Pionnière parce que c'était, après l'heure joyeuse, une grande bibliothèque réservée aux enfants, et pionnière aussi par son architecture qui est tout en rondeur, donc au sein du quartier de la Plaine à Clamart. Donc cette bibliothèque, et puis par ailleurs à Paris, un centre de recherche sur l'histoire du livre pour enfants, et qui recevait en fait un exemplaire du dépôt légal, qui a donc une collection assez remarquable pour l'après-Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours, ainsi que un service qui est dédié au monde arabe et aux livres francophones. Et donc la Joie par les livres a une collection donc, dans le domaine du livre pour enfants après 1945. Et elle a aussi un service de formation pour les bibliothécaires. Elle édite la revue des livres pour enfants qui fait la critique en fait, de tout ce qui paraît dans le domaine du livre pour enfants. Il doit y avoir 6 numéros par an. Et donc, la Joie par les livres a rejoint la Bibliothèque nationale de France administrativement, c'est-à-dire son personnel BNF, et sera physiquement dans les murs de la BNF au second semestre 2009, donc avec son personnel et ses collections. Et c'était une façon, en fait, de marquer cette arrivée, que de faire cette exposition qui, je dirais pas qu'elle a été précipitée, mais on a eu un an et demi de préparation pour la faire. Elle n'était pas dans le programme décennal, on va dire, des expositions. C'était aussi une façon de rendre hommage au don babar, puisque le projet d'une exposition babar ou une exposition consacrée à la famille de Brunhoff a été un peu perdu de vue et donc fondu dans la masse de cette exposition. C'est une première à la Bibliothèque nationale de France de faire une exposition consacrée aux livres pour enfants et qui s'adresse aux visiteurs de 7 à 77 ans. Certes, il y avait eu Contes de fées, mais Contes de fées n'était pas exclusivement livres pour enfants, puisque nous avions des manuscrits, des pièces empruntées au domaine cinématographique publicitaire. Certes, il y avait une part de livres pour enfants importante, mais pas exclusivement. Là, c'est vraiment une exposition dédiée aux livres pour enfants, et pour accueillir ces visiteurs, on a abaissé les hauteurs de vitrine pour qu'ils puissent voir les pièces. Il y a une scénographie qui se prête un petit peu à ce monde de l'enfance, puisque le projet de la scénographe était d'évoquer les maisons de poupées en carton, d'où des petites maisons, il y a 12 maisons thématiques, et des vitrines qui se déplient un petit peu en pop-up. La grande inconnue, c'était de savoir si les enfants répondraient à l'invitation de venir visiter cette exposition. Et je dirais qu'avant le vernissage, il y a eu donc une pré-inauguration pour lire en fête et que les premiers visiteurs à franchir le seuil de la galerie ont été les enfants. Et c'était un spectacle un petit peu inédit de voir des enfants de tous les âges, y compris ceux qui étaient encore à quatre pattes, de voir des groupes, je dirais, transgénérationnels, c'est-à-dire petits-enfants, enfants, grands-parents, réunis devant les pièces. Aussi de voir beaucoup de mamans accroupies par terre avec le questionnaire pour expliquer aux enfants ce qui était leur lecture, elles étaient petites. C'est une exposition qui est réservée aux livres pour enfants édités en France, ce qui n'exclut pas bien évidemment la création étrangère, mais cette création étrangère est toujours représentée par des éditions françaises, parce que sinon ça nous emmenait beaucoup trop loin. L'exposition contenant 400 pièces, nous avons déjà eu beaucoup de sélections à faire et de remords sur des pièces françaises. Donc le livre édité en France, des origines à nos jours dans le domaine de l'édition pour enfants, ce qui n'exclut pas donc le domaine étranger, puisque l'on trouve des classiques anglo-saxons, des classiques allemands, mais toujours en édition française. Donc pour ce qui est du plan, je dirais que la première idée qui venait, dont j'étais d'ailleurs partisante, était de faire un plan chronologique pour restituer à proprement parler l'histoire du livre dans son évolution. Donc grosso modo, les prémices jusqu'à l'aube du 19e siècle avec toute l'effervescence du 18e. Le 19e siècle avant l'ère Hetzel des années 60, et puis après ce que l'on appelle l'âge d'or, pour enfin aborder la période contemporaine qui aurait été celle de la Seconde Guerre mondiale. Mes collègues ont trouvé, et je me suis ralliée à leur idée, que c'était effectivement le plan qui était suivi par la plupart des monographies, des catalogues sur ce sujet. Et donc on a opté pour un parcours un petit peu parallèle, qui était de suivre l'évolution de l'enfant, c'est-à-dire les âges de l'enfant, et de bâtir un plan en trois parties. Donc la première étant consacrée à la découverte du livre par l'enfant, c'est-à-dire découverte tactile, le toucher, l'apprentissage des lettres, et les premiers petits livres, les histoires courtes, les premiers périodiques. La seconde partie, l'enfant devenait lecteur autonome, et donc pouvait aborder une littérature, enfin des romans plus conséquents, avec d'abord une littérature empruntée à papa et maman, c'est-à-dire une littérature adulte qui va être adaptée pour les enfants, et puis aussi une littérature qui va être créée spécifiquement pour la jeunesse. C'est aussi dans cette partie qu'on aborde les documentaires que l'on souhaitait faire figurer dans cette exposition, ainsi que la presse pour enfants. Et la troisième partie se penche, elle, sur les rapports entre livres pour enfants, enfants et adultes, c'est-à-dire ce que font les adultes du livre pour enfants pour former l'enfant dans un sens moral, dans un sens religieux et dans un sens politique. Et c'est aussi dans cette partie que nous avons casé la bibliophilie, à savoir ce que l'on a appelé les livres à ne pas toucher, des très beaux livres, dans lesquels on inclut également les livres des traînes, qui sont très très beaux et qu'on mettait plus sur une tablette ou sur une vitrine, des livres d'artistes faits par des peintres à tirage limité, et des exemplaires uniques. Et enfin, dans cette même partie, on aborde le rapport entre livres pour enfants et cinéma, avec du livre au cinéma et du cinéma au livre. Et en fait, une quatrième partie s'est raccrochée à ce parcours qui est au centre et qui est une galerie des héros de l'enfance, donc une galerie de personnages en 12 grandes familles thématiques où on balaye à peu près les grands classiques de la littérature enfantine. Donc je disais qu'il y a à peu près 400 pièces dans cette exposition, elle dure 6 mois, donc c'est une longue période qui a nécessité ce qu'on appelle une rotation à mi-parcours, c'est-à-dire donc en janvier, il y a à peu près un tiers des pièces qui ont retrouver le magasin et on les a remplacés par d'autres pièces, alors parfois d'autres exemplaires de la même édition, parfois d'autres éditions, voire carrément un autre ouvrage quand on ne pouvait pas remplacer ce livre. Il y a dans l'exposition, je dirais, bon, essentiellement des livres. On a voulu ponctuer le parcours par des jouets pour rappeler l'univers de l'enfance, donc des jouets qui sont dérivés des livres, essentiellement empruntés au musée des arts décoratifs qui a une très très belle collection. Il y a bien évidemment quelques manuscrits. Parmi les plus célèbres, il y avait le manuscrit du Télémaque de Fénelon, le manuscrit de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, le manuscrit des Malheurs de Sophie, de la comtesse de Ségur. Donc des manuscrits, des maquettes et des dessins originaux, des affiches, voilà, au niveau de la diversité des pièces exposées. Enfin, il y avait un parti pris qui était complètement assumé de notre part, qui était de faire juxtaposer des pièces, alors des pièces très anciennes avec des pièces contemporaines, des pièces qu'on pourrait qualifier de mineures avec des pièces exceptionnelles, ou des pièces ordinaires et des pièces exceptionnelles. Ça provoque parfois des réactions, du style on ne mélange pas les torchons et les serviettes, Mais c'est vrai que pour évoquer le roman du quotidien, et bien à côté de la comtesse de Ségur, manuscrit donc des malheurs de Sophie, on trouve les romans contemporains, notamment Valérie Dare qui, avec un petit clin d'œil, est l'auteur des nouveaux malheurs de Sophie dans les années 90. Donc c'est cette juxtaposition qui parfois peut provoquer des réactions. Voilà, il me semble que je n'oublie rien. Alors, ce que je proposais, c'était plutôt que de refaire une histoire du livre pour enfants, c'était de parcourir un petit peu l'exposition en vous parlant à la fois des thèmes que l'on a suivis et des principales pièces. Donc, je ferai circuler quelques illustrations. Dans le grand ensemble de la découverte du livre par le tout petit, la première section était donc la découverte tactile, sensorielle, sonore du livre. Et au sein de cet ensemble, on a consacré une vitrine aux livres à toucher, à manipuler. Enfin, si j'avais le temps, je me pencherais volontiers sur de quand date la prise de conscience du bébé. C'est-à-dire que beaucoup d'éditeurs au XIXe siècle vont constituer des bibliothèques de bébés, notamment un éditeur qui s'appelle Théodore Lefebvre, qui écrira sous le pseudonyme de Madame Doudet. Bébé saura bientôt lire, bébé sait lire et bébé devient savant, qui forme une trilogie de 3 albums dans les années 70. Et donc les éditeurs dans les 2 dernières décennies du XIXe siècle vont prendre conscience d'une tranche d'âge que grosso modo on situerait entre 4 et 7 ans, c'est-à-dire des enfants qui ne savent pas lire. Et donc c'est différent de la notion de bébé qui va émerger dans les années 1970, où le bébé c'est vraiment le tout jeune lecteur qui a moins de 3 ans et qui progresse quand on va reculer en fait. Pendant un temps a été considéré de 18 mois à 3 ans, maintenant on considère les bébés lecteurs à partir de 3 mois et on fait des livres voilà, pour eux. Ce qui serait intéressant, c'est que quelqu'un se penche sur cette émergence de la notion de bébé lecteur et en quoi les éditeurs ont pris conscience de ce lectorat et ont adapté leur catalogue.
Le premier âge.
Ça, c'est Béblé, mais alors plus dans les années effectivement 40-50, où il y avait des bibliothèques du premier âge, effectivement, qui se caractérisent par des textes en gros caractères, des histoires courtes, séquencées en petits chapitres, avec une illustration en pleine page qui permet des pauses. Soit lu à voix haute, ou soit le lecteur vraiment débutant. Et donc, pour répondre à ces bébés lecteurs, les éditeurs vont créer des livres indéchirables sur carton fort ou sur toile vernie, donc de surcroît lavable, ce qui était autant d'arguments qui étaient mis en avant dans les catalogues. C'est le cas, par exemple, de Westhauser, qui avait dans son catalogue un certain nombre de documents de ce type. Alors, en fait, la Bibliothèque nationale est très pauvre pour ce genre de publication, tout comme, par exemple, les albums de Cécile Aldine, édités par Hachette. Il y a des mystères comme ça. Cécile Aldine, qui était un illustrateur anglais, qui a fait beaucoup de livres pour enfants, qui est édité par Hachette, notamment des petits chiens, enfin des animaux. Donc je vais vous faire circuler d'une part un exemple d'imagier, donc emprunté à l'heure joyeuse, imprimé sur carton fort, qui s'appelle Le premier livre de bébé, et qui est publié vers 1900, avec des lithographies qui sont coloriées, et donc les lithographies sont collées sur un carton épais. Et puis, dans le même sillage, presque un siècle plus tard, on a un autre livre à découvrir par la manipulation, c'est Le Préludri de Bruno Munari, donc publié en 1980. Donc c'est toujours, on s'est efforcé de faire le lien entre les origines et le contemporain, quand même, comment sur une même thématique, sur un même type de document, il y a une continuité. Et en fait, Bruno Munari est un illustrateur, graphiste, designer italien, qui à partir de 1946 a créé des livres pour enfants, qui s'appelaient des livres surprises, notamment avec des fenêtres, qui étaient édités au Pré-au-Clair. Il y avait Le cadeau de Marc, À quoi penses-tu, et d'autres livres de ce type. Et puis après, il a fait des livres d'artistes pour adultes, qu'il appelait les livres illisibles, c'est-à-dire sans aucun texte, faits sur des papiers de différentes textures, de différentes couleurs, souvent traversés par des fils. Et cette expérience-là, il l'a adaptée au livre pour enfants en 1980 en proposant des prélibris, c'est-à-dire une petite bibliothèque, un petit coffret qui contient 12 petits livres de format carré qui tiennent dans la main d'un enfant, qui sont tous de matières différentes. Alors il y a de la feutrine, du bois, du liège, du carton, du plastique. Tous peuvent se prendre dans les deux sens, il n'y a aucun texte, le titre est sur les deux couvertures. Et au milieu, il y a une surprise. Par exemple, un bouton à passer dans une boutonnière, un petit pompon, un bout de laine qui se tend. Et Bruno Munari disait qu'un enfant qui est habitué très petit à découvrir des surprises dans les livres, toute sa vie chercherait des surprises dans la lecture. L'autre type de document dans cette découverte du livre, c'est la chanson qui a donné lieu à des albums. Des albums qui peuvent être soit des recueils avec des partitions, les paroles et les illustrations, soit, et là, je pense qu'Hetzel a été un des rares à innover dans ce domaine, ce que j'appelle des albums chansons, Donc les 14 albums qu'il a édités dans le cadre de la bibliothèque de Mademoiselle Lily. 14 albums qui vont de 1872 à 1883, si je ne me trompe. Et c'est un album par chanson, tous illustrés par Froelich et en couleur. Donc il y a Au clair de la lune, Il pleut bergère, Nous n'irons plus au doigt, etc. C'est assez intéressant parce que les textes sont souvent réécrits, très souvent par Hetzel sous le pseudonyme de Stahl, dans un sens moral. Et notamment, donc, il y avait Au clair de la lune qui doit composer le deuxième titre de la série, je crois, qui est donc une chanson populaire du XVIIIe siècle, voire grivoise, que Hetzel a complètement réécrit dans un sens moral. Donc il n'y a plus que des garçons, il n'y a plus de dames, et puis il y a une moralité à la fin, la méchanceté est punie, enfin, il y a un côté très moralisateur. Donc il y a les albums chansons, et puis donc dans la catégorie des recueils, il y a évidemment les albums de Bout et de Montvelle, des années 1880, 83 et 85 si je ne m'abuse, les vieilles chansons de France et chansons pour les enfants, qui sont deux recueils avec partition, et donc illustrés par Bout dans un style qui lui est bien propre, c'est-à-dire que très souvent il représente des enfants de dos, il superpose le texte sur l'illustration qui vient complètement masquer une portion de l'image. Et puis, pour arriver au XXe siècle, Les Chantes-Fables de Robert Desnos, publié chez Grunt en 1944. Donc en fait, ça a été composé par Desnos en 1943 et remis à l'éditeur en 1943, et puis publié en fait pendant la déportation de Desnos. Desnos n'en verra jamais l'édition, puisqu'il mourra avant. L'illustration est d'Olga Kovalevski. On continue à apprendre dans les classes élémentaires ces Chantes-Fables. Ça a été beaucoup réédité, mais les illustrations de l'édition originale n'ont jamais été rééditées. Et puis, dans cette même univers de la découverte du livre, on introduit le livre-spectacle, c'est-à-dire le livre à système, où on n'est pas forcément lecteur, où on regarde, où on écoute la lecture et où on voit les tirettes faire animer le livre. Alors, dans ce domaine, c'est pareil, on a pris des origines et on a suivi jusqu'à nos jours. Et pour les origines, le plus ancien livre à système pour enfants est dû à un auteur qui s'appelle Jean-Pierre Bresse, qui est un auteur assez prolixe, qui a fait beaucoup de petits livres contenus dans des bibliothèques. Et donc, il a publié en 1831 le livre Joujou, qui est un conte merveilleux, un récit féerique assez long, qui est illustré d'une douzaine de planches coloriées avec des tirettes. Et les tirettes permettent de faire apparaître ou disparaître des personnages. Et à chaque fois dans le texte, il y a un petit astérix indiquant que c'est à ce moment-là qu'il faut actionner le système. Pour la petite histoire, la Bibliothèque nationale de France, qui a sans doute la plus importante collection de livres pour enfants par le biais du dépôt légal, est riche de deux exemplaires du livre Joujou, mais avec les planches en noir et blanc et sans les systèmes. Donc nous avons emprunté le livre Joujou à la bibliothèque municipale de Rennes, qui a dans le fond Paulès un très joli fond de livres pour enfants. Il y a bien évidemment, à partir de 1860, une explosion, je dirais, du livre à système, où on fait s'animer par des mouvements les éléments d'une image, on les fait apparaître ou disparaître. Il y a aussi des livres à coulisses qui permettent de remplacer une image par une autre. Par exemple, le mauvais élève avec le bonnet d'âne, en tirant sur la tirette, disparaît. Et apparaît le bon élève avec sa couronne de laurier et sa pile de livres de plus. Et puis ce que l'on appelle des livres théâtre, à partir des années 1870, donc avec des décors en plan découpé qui donnent de la profondeur à l'image. Donc là encore, c'est Guérin Muller qui va initier le genre, et Guérin Muller aura son fonds racheté par Capendu. Capendu qui est le plus important éditeur de livres à système et de livres en relief, à partir des années donc 1880 et jusque dans la première moitié des années du XXe siècle, jusque dans les années 50. Voilà, donc après cette découverte par le toucher, le sens, le spectacle, il y a les choses sérieuses qui commencent, à savoir donc les imagier, les abécédaires et apprendre à compter. C'est l'objet de la deuxième section. Et au sein des imagiers, évidemment, la place d'honneur revenait au plus ancien imagier, ce que l'on considère comme le premier imagier pour enfants, qui est dû à Comenius, et qui s'appelle l'Orbis Sensualium Pictus, qui date de 1658, qui se compose d'une part d'un alphabet, c'est-à-dire un alphabet avec des images associées à des sons, et puis 150 voix gravées, qui sont tous annotés par des lettres qui renvoient en regard à un vocabulaire en latin et en allemand. Donc c'est à la fois donc un vocabulaire bilingue, puis au fil des éditions il deviendra quadrilingue, et puis surtout une sorte de petite encyclopédie, puisque ces voies gravées abordent aussi bien le squelette que les animaux, le ciel, la terre, les éléments, on commence par la création bien sûr. C'est une petite encyclopédie en soi, ça sera abondamment réédité au fil des siècles. l'ensemble constitué par les manuels scolaires, tout ce qui était apprentissage de la lecture, mais au sein de l'institution scolaire, on a été forcé de le mettre en marge de l'exposition, puisqu'alors là, ça, on était complètement englouti. Mais on a souhaité quand même faire apparaître trois méthodes de l'Ancien Régime. Les deux méthodes du XVIIIe siècle pour témoigner de l'effervescence dans le domaine éducatif au XVIIIe, et puis le rôti cochon qui est conservé à l'Arsenal, qui date de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, qui est imprimé à Dijon, et qui est une méthode pour apprendre à lire et à écrire à partir d'exemples culinaires, donc qui sont tous empruntés à la gastronomie, donc les gaufres, les bunis sucrés, etc. C'est un livre qui joue sur les caractères, qui a des petites sentences latines, des petites sentences morales, et puis des petites phrases en gros caractères en français associées à des petits motifs, à des petites figures. Donc le rôti cochon, et puis surtout les deux grandes méthodes du XVIIIe siècle, un petit peu révolutionnaires, c'est d'une part le bureau typographique, donc inventé par Louis Dumas en 1733, et qui consistait à l'origine en un grand bureau, sans doute à peu près aussi long que la table, et qui représentait la case d'un imprimeur. Donc dans les cases, il y avait des cartes à jouer, sur ces cartes à jouer, il y avait des lettres, et l'enfant, comme un imprimeur, prenait les lettres et composait d'abord des syllabes, puis des mots, puis des phrases, en latin bien sûr, et puis après en français, qui était le second niveau. Et puis cette méthode a eu un certain succès d'une part dans les institutions privées et puis les milieux de la haute noblesse. De ce fait, elle a été reprise à la fin du XVIIIe siècle, dans les années 1790, sous la forme d'un petit coffret miniature qui fonctionne exactement sur le même principe. Donc on retrouve les petites lettres à prendre pour composer. Donc, ça a été repris au XIXe et puis au XXe siècle. Donc le bureau typographique, et puis l'autre méthode qui lui succède 10 ans après, c'est le quadrille des enfants, qui est dû à l'abbé Berthaud et qui est mis au point en 1743. Donc on retrouve le même principe, c'est-à-dire l'importance de l'instruction par le jeu, c'est-à-dire dans le sillage de Locke, en fait, des réflexions de Locke, c'est qu'il faut instruire l'enfant en l'amusant et pas en le barbant. Donc on va l'amuser, on va le distraire et on va l'instruire en même temps. L'autre point essentiel, c'est l'instruction par l'image, c'est-à-dire que l'enfant apprend d'autant mieux qu'il voit les choses, d'où le portefeuille des enfants que l'on verra plus tard, et puis donc ce quadrille des enfants qui est une méthode d'apprentissage basée sur la phonétique. On associe un son à une chose, donc le livre en lui-même était composé de planches. Alors pour le prix le plus bas, on avait le livre avec les planches en noir, un prix un petit peu au-dessus, on avait les planches coloriées, et alors le must était d'avoir le livre et le jeu de petites fiches en os qui l'accompagnaient, et sur ces petites fiches, il y avait d'un côté le son et de l'autre la figure. Et donc l'exemplaire que l'on montre est l'exemplaire de l'Aiglon, c'est-à-dire le fils de Napoléon, exemplaire qui est conservé à Fontainebleau. C'est extrêmement rare en fait d'avoir le livret et les petites fiches en os. Alors pour ce qui est sinon des abécédaires plus classiques, il y a évidemment l'alphabet de Mademoiselle Lily qui paraît en 1877 en même temps que l'arithmétique de Mademoiselle Lily qui lui fait pendant. Donc là c'est un album Stahl, bibliothèque de Mademoiselle Lily. La journée de Mademoiselle Lily paraît pour les étrennes de 1863. Il y aura en tout 136 albums en noir ou en deux tons, c'est-à-dire en rouge et noir brun, et 63 albums en couleur. Et alors ça, c'est le succès de Mademoiselle Lily a fait ensuite la création de la série, principalement illustrée par Frelich, mais aussi Froment, Fass et d'autres. Alors pour les alphabets et imagiers du XXe siècle, le saut c'est évidemment la photographie, avec deux livres très intéressants des années 30, dû à deux photographes, l'un qui vivait de ses photographies, l'autre qui en avait beaucoup du mal, Emmanuel Souget, qui a fait deux livres pour enfants, un imagier, Regarde, et un abécédaire, qui s'appelle Alphabet. Regarde est édité par Henri Jonquière, qui était un éditeur d'art, on va dire. Henri Jonquière n'était absolument pas un éditeur pour enfants, mais comme il le met dans les catalogues d'étrennes, lorsqu'il fait la promotion de son livre, il crée le premier imagier photographique adapté aux tout-petits, à savoir un format carré, une reliure solide, fait par des rivets, une impression sur Bristol, solide, avec des héliogravures qui seront ensuite vernies. Alors évidemment, ce qui permettait au bébé de toucher ça avec des mains plus ou moins propres, mais avec le recul, le vernis elle donne un ton jaune aux images, ce qui est un petit peu dommage. Et puis une recherche, ne serait-ce que dans la couverture, la maquette de la couverture qui est assez extraordinaire. Et donc à la même époque, il y a un autre photographe qui est Pierre Dat, qui est aussi illustrateur dans des périodiques pour enfants, qui a fait donc cet alphabet, qui est assez remarquable par la mise en abîme en fait sur la couverture, où on voit les deux enfants, qui sont d'ailleurs les deux enfants du photographe, en train de regarder le livre sur lequel ils sont aussi en couverture. Et c'est aussi Pierre-Dard, en fait, son alphabet est un petit peu atypique, en ce sens que les mots qui illustrent les lettres sont pas tant des choses concrètes que des notions, et ce qui était un petit peu exceptionnel, voilà. Ensuite, il y a une section qui est là encore un secteur dans l'édition pour enfants qui est assez prospère dès le 19e siècle et bien évidemment qui continue tout au long du 20e siècle, qui est ce qu'on appelait au 19e siècle les récréations enfantines, qui sont en fait des albums d'activités, tels que les appelait le père Castor. Donc dans ces récréations enfantines, on trouve des livres, notamment dans les années 1880, où on avait Tom Tite, qui tenait une rubrique dans l'illustration qui s'appelle La science amusante, et qui a fait un album pour enfants dans lequel il apprenait aux enfants à fabriquer leurs propres jouets, avec de la mie de pain, avec des oranges, avec des marrons, des coques de noix, etc. Et l'idée avait été aussi reprise par Gaston Tissandier, qui a fait à peu près le même livre à la même époque. Donc il y a ce type de livre, et puis après il y a les albums à colorier. Évidemment, il y en a énormément. Nous, on a été séduits par un album qui est rare dans une collection aussi originale qui s'appelle Les leçons de choses du petit coloriste, créé par un éditeur qui s'appelle Henri Laurence, éditeur qui était spécialisé dans l'histoire de l'art, mais qui avait aussi à son catalogue des livres pour enfants assez soignés. Et donc Henri Laurence, à travers cette collection des leçons de choses du petit coloriste, voulait apprendre aux enfants les béaba, le béaba de la peinture, de la perspective et des couleurs. Et il avait d'abord fait appel en 1907, je crois, à Georges Auriol, peintre, et puis après créateur du caractère d'imprimerie. Et puis donc en 1911, il fait appel à Maurice Denis et il lui demande de dessiner un album à colorier pour enfants. Et c'est amusant parce que Maurice Denis, dedans, va mettre à la fois ses souvenirs d'enfance, puisqu'il a vécu enfant à Saint-Germain-en-Laye, donc on voit beaucoup de promenades dans les bois, et puis aussi des paysages bretons, puisqu'il avait sa résidence à Perros-Guirec. Donc c'est là qu'il va faire cet album qui s'appelle « Premier paysage », dans lequel il apprend aux enfants l'art de la couleur. Et c'est assez intéressant de la part de ce peintre-là, qui était théoricien justement de la couleur. Et puis enfin, bien sûr, pour le XXe siècle, alors je sais que vous allez jusqu'en 30 à la bibliothèque. Et...
33.
Ah oui. Oh, bah ça tombe bien. Ça tombe bien parce que le père Castor, c'est 31 et que c'est révolutionnaire. Je fais mes masques, c'est le premier album du père Castor. Les premiers albums donc qui vont être édités par Paul Fauché, donc qui se cache derrière le pseudonyme du père Castor, vont être des albums de création, pas des albums d'histoire. Les histoires reviendront un petit peu après. Donc là, c'est Je fais mes masques. C'est aussi un travail de Nathalie Parrain, qui est une illustratrice d'origine russe et qui va faire des grands succès des années 30 au père Castor. Et le père Castor, c'est aussi ce petit animal qui construit, d'où l'enfant aussi qui est amené à créer par lui-même. Donc c'était dans le sillage de ce mouvement qui s'appelait l'éducation nouvelle et qui laissait une certaine liberté à l'enfant dans la création. Alors ensuite, évidemment, il y a l'album, puisque après, en même temps qu'il apprend un petit peu à lire, il y a aussi la découverte de l'image avant même la lecture. Et alors là, je dirais que l'album aurait mérité une exposition à lui tout seul avec 400 pièces. Et je dirais que c'est la partie où on s'est le plus étripé. J'ai oublié de dire tout à l'heure que nous étions quatre commissaires, mais Nicolas l'a dit. Je suis l'un des quatre mousquetaires. Donc il y a également Corinne Gibello qui est chargée du secteur jeunesse au sein du département littérature et art. Olivier Piffaut, qui est le directeur adjoint de La Joie par les livres, et enfin Daniel Thibault, qui travaille à l'action pédagogique. C'est vrai que l'album, enfin retracer l'album à peu près en 30 pièces, ça a été la croix et la bannière. Il y a évidemment des illustrateurs d'importance qu'on ne peut pas montrer, on a essayé de les recaser ailleurs dans l'exposition, mais c'est vrai que ça a été la partie la plus difficile à traiter. Alors évidemment, aux origines de l'album, on cite Töpfer, qui est aussi le père de la bande dessinée, qui a créé ces histoires en images, ces histoires en estampes, à partir de 1833, où c'est vraiment une succession de petites images avec un texte en dessous. Ensuite, l'autre temps fort, c'est bien évidemment Mademoiselle Lily Hetzel. Et puis, évidemment, on remettait Bouteille de Montvel, toujours avec ce style reconnaissable, hein, qui est de représenter des enfants de dos ou de côté. Ce que l'on retrouve aussi chez Kate Greenaway, Bouteille de Montvel avait aussi l'influence de ces illustrateurs liés au mouvement Arts and Crafts en Angleterre, qui sont Walter Crane, Kate Greenaway et Randolph Caldecott. Bouteille de Montvel, et puis il y a une place de choix qui est faite à Job, Jacques Onfroy de Bréville, illustrateur des albums historiques pour enfants de la fin du 19e et du début du 20e siècle. À la réserve, on a la chance d'avoir fait deux acquisitions importantes de cet illustrateur. D'une part, la maquette de France, son histoire, qui retrace en fait l'histoire de France à travers trois albums. Et le premier, c'est des origines à la Révolution. C'est assez amusant parce que la France est incarnée par une petite fille. Donc, elle est tout début bébé dans un berceau de gui tout en haut d'un chêne et découverte par un druide. Et puis, petit à petit, on va la suivre. Elle est écolière sous la protection de Charlemagne, que l'on voit ici penchée donc, sur son épaule. Donc, on suit ainsi l'histoire de France. Et puis, elle finit bergère à Versailles quand on gronde, en fait, les menaces de... Dans le deuxième volet, France, son histoire, France, en fait, devient une cantinière et elle suit l'armée. On suit les événements de la Révolution de l'Empire. Et puis Job a également, parmi les multiples albums qu'il a fait, il en a fait un autre en 1913 qui s'appelle « À la gloire des bêtes ». Donc le texte est d'Aristide Fabre. Job a fait donc les illustrations. Et c'est les animaux célèbres qui ont fait l'histoire, donc les oies du Capitole, Moustache, un fameux caniche qui s'est rendu célèbre à Austerlitz en relevant l'étendard, en prenant entre ses dents. Et donc ici, il y a le lion de Naples qui s'était échappé de la ménagerie du Grand-Duc et qui sème la terreur dans la ville et qui va effrayer une maman qui va en laisser tomber son nourrisson. Et Job saisit assez astucieusement cette tension entre la mère qui implore et le lion qui tient le bébé dans sa gueule et qui finalement va restituer tout en douceur l'enfant à sa mère. Après, évidemment, il y a ce que l'on appelle la révolution de l'album moderne qui survient dans les années 20 avec des gens comme André Hellé. Et puis Eddie Legrand, qui crée un livre qui maintenant est devenu assez célèbre, qui s'appelle « Macao et Cosmage », qui est le premier livre pour enfants édité par la NRF en 1919. Un tirage relativement limité, c'était 5500 exemplaires. Et donc un conte rousseauiste, c'est-à-dire un couple de sauvages qui vit tranquille sur son île jusqu'au jour où un croiseur débarque avec toute la civilisation, les usines, etc. Et c'est illustré au pochoir. Et en fait, la caractéristique de ces années 20, c'est qu'en réaction à un livre pour enfants qui s'appauvrit à la fois dans son inventivité et dans son aspect matériel, c'est une espèce de standardisation du livre pour enfants à travers... les bibliothèques roses et vertes qui vivent en fait de leur acquis. Il va y avoir des illustrateurs qui vont faire des livres un petit peu élitistes, du moins soignés, réservés à une certaine classe sociale par leur prix même, dont la caractéristique au niveau de l'illustration était donc l'illustration au pochoir, c'est-à-dire le rendu des couleurs, d'où l'éclat aussi de ces couleurs aujourd'hui. La NRF édite quelques années plus tard, donc en 1930, « Mon chat » de Nathalie Parrin. C'est l'acquisition que la réserve a faite à la vente Nathalie Parrin en printemps dernier, printemps 2008. Et donc Mon chat, c'est un album dans lequel le texte tient très très peu de place et c'est la journée retracée à travers la petite fille et son chat. Donc des compositions assez constructivistes de Nathalie Parrin avec un très grand réalisme dans le dessin du chat. Et là, c'est assez amusant parce que c'est donc la NRF qui s'avançait pour la deuxième ou troisième fois dans le domaine du livre pour enfants et qui, dans ses archives, reconnaît en fait l'échec de ces éditions qui n'ont pas trouvé leur public. C'est d'ailleurs des éditions qui se voulaient soigner sur un beau papier avec un prix assez élevé puisque Mon chat coûtait 45 francs à l'époque, 8 fois plus qu'un album du Père Castor. Un album du Père Castor, c'était déjà pas tout public, c'était quand même réservé à un certain milieu social. Et puis on arrive bien évidemment à Babar. Babar avec une des aquarelles du Don Babar fait en 2005, donc c'est le voyage de Babar, c'est-à-dire le voyage de noces de Babar et Céleste, qui donc quitte le pays des éléphants pour gagner le monde civilisé à travers ce ballon, il va leur arriver plein de péripéties. La révolution de Babar, c'est pas tant le format que c'est la création d'un personnage anthropomorphe qu'on avait déjà pu voir avec Pierre Lapin auparavant, un dessin assez simple, un texte également qui se met à la portée de l'enfant, qui est écrit, enfin qui reprend l'écriture de Jean de Brunot, parce que c'est une écriture cursive, et qui sont autant d'éléments qui vont séduire les enfants. Le voyage de Babar est un petit peu atypique par l'importance de la couleur bleue. Dans les albums de Babar, ce qui prédomine, c'est le vert, le jaune, le orange un petit peu, mais le bleu est assez rare, et au contraire, il est très dominant dans cet album sur le... Après la Seconde Guerre mondiale, l'album va être traversé par deux tendances, qui est d'une part une tendance, dans le contexte du baby-boom, à une production très très large, à très bon marché, et ça va être la création de deux collections qui sont d'une part la création des petits livres d'or et petits livres d'argent à partir de 1949 et qui sont créés par les éditions des deux Coques d'or. Voilà. Il me semble, alors je ne sais jamais dans quel ordre, c'était Cocorico d'abord, qui devient les deux Coques d'or ensuite, me semble-t-il. Donc on a pris un petit livre d'or, qui était en fait une idée reprise des États-Unis avec les Golden Books, donc des livres bon marché, qui reprenaient souvent des contes. Et alors là, on a pris La nuit de Noël, qui est un poème d'un auteur américain qui s'appelle Clement Clarke Moore, qui a publié en 1823 un poème qui s'appelle « To the Night Before Christmas » et qui est le premier texte dans lequel on va donner une description du Père Noël, de Santa Claus, si on préfère, c'est-à-dire un personnage avec une hotte qui est sur un traîneau tiré par des rennes, Pitou, la panthère, etc. Autant de petits albums. Et en 1953, Proust réunira tous ces petits personnages autour d'une petite fille qui s'appelle Caroline. Donc voilà. Et puis après, on arrive à la révolution des années 60, avec en 67, si je ne me trompe, donc Max et les Maxi-Monstres, donc le succès américain repris par Robert Delpierre, qui avait créé trois collections pour enfants, 10 sur 10, Actibum et Multibum, à partir de 1951. Et puis l'année suivante, c'est bien évidemment Tommy Ungerer et les Trois Druides, un succès indémodable. Après l'album, évidemment, donc les petites histoires, au sein desquelles les contes occupent une place assez importante, et évidemment les contes, c'est à l'origine des contes mis par écrit après Basile Straparole, pour nous c'est Perrault bien sûr, donc on montre l'édition originale des contes de Perrault, 2697, avec là encore une discussion qui pourrait être assez longue sur les contes de Perrault sont-ils pour enfants ou pas. J'ai eu récemment une discussion avec Jean-Marc Châtelain de la Réserve, qui pour lui, il y a un côté populaire artificiel donné par l'auteur. Pour moi, c'était pour les deux. Je me basais sur deux faits pour dire que c'est aussi bien pour adultes à travers le style ciselé, les moralités qui sont complètement pour adultes. Et puis, ce qui me permettait de dire que c'était aussi pour les enfants, c'est d'une part le frontispice qui représente ma mère Loi, cette vieille femme, qui compte des histoires à trois personnes, qui sont trois enfants. Et puis par ailleurs, lorsqu'on a fait l'exposition Contes de Fées en 2001, on avait emprunté à la Pierrepontes Morgan Library le manuscrit de présent, on va dire, c'est-à-dire calligraphié pour la nièce de Louis XIV, donc un très beau manuscrit, bien copié avec des illustrations qui finalement sont reprises pour l'édition. Et dans ce manuscrit, dans les interlignes et dans les marges, il y avait une annotation d'une autre main. Et notamment pour le petit chaperon rouge, ces annotations précisaient comment il fallait prononcer les phrases pour bien effrayer les petits enfants. Donc ce qui montre bien qu'il y avait une destination qui d'une certaine façon était pour les enfants. Donc les contes de Perrault, donc de l'édition originale 2697, il n'y a qu'une douzaine d'exemplaires connus à travers le monde, dont celui de la réserve des livres rares qu'on a exposé pendant les trois premiers mois, et puis en ce moment c'est celui de la Sorbonne. Et en plus ça se répartit en deux états. C'est-à-dire qu'il y a un premier état avec les coquilles dans le texte et le feuillet d'errata à la fin. Donc là, c'est trois exemplaires localisés à travers le monde. Et puis, un second état avec les fautes corrigées dans le texte. Et puis, pour poursuivre dans le 19e siècle, il y a bien évidemment les contes du chanoine Schmitt, très prolixe tout au long du 19e siècle. Et puis, je privilégierais plutôt un conte complètement loufoque qui s'appelle le Mirliton merveilleux, qui est entièrement lithographié, donc évidemment illustration et texte, et qui est dû à Jules Rostin pour le texte. Alors c'est truculent au niveau des jeux de mots, et l'illustration est tout aussi loufoque, en complète harmonie avec le texte, et elle est due à un illustrateur qui avait un pseudonyme, qui signait Tellory. Et puis évidemment, quand on aborde après le 20e siècle, les contes pour enfants, c'est bien évidemment Marcel Aimé et les contes du Chat-Berger, qui auront pour illustrateur trois illustrateurs russes. Le premier étant Nathan Altman, que l'on voit ici. Et puis après, Nathalie Parrin deviendra l'illustratrice officielle des contes du Chat-Perché, à tel point que Marcel Aimé la considérera comme co-auteur. Il écrira dans une lettre qui est conservée au département du manuscrit qu'il n'écrira plus les contes du Chat-Perché sans penser aux illustrations de Nathalie Parrin. Un conte qui est plus méconnu, qui s'appelle Grindel, de Paul Éluard, qui est un jeu sur son patronyme, puisque c'était Eugène Grindel. C'est un livre qui est édité par un éditeur un peu confidentiel qui s'appelle Raison d'être, mais qui est intéressant parce que c'est un des premiers travaux d'illustration de Jacqueline Duhem, qui sera plus connue deux ans plus tard, en 1953, avec l'Opéra de la Lune de Prévert. On quitte en fait la sphère de la petite enfance, des histoires courtes, des albums, pour aborder l'univers des lectures adolescentes ou de l'âge qui vient après. Et tout à l'heure, on parlait d'Ésope. Le premier corpus sur lequel on s'est penché, c'est celui qui est constitué par les lectures d'adultes qui vont être adaptées pour la jeunesse, que ce soit aussi bien les fables que les fabliaux, le roman des bêtes et les romans historiques et autres. Et donc, pour les fables d'Ésope, c'est assez amusant parce que Gilles Corozet les a mis en vers au XVIe siècle. À partir de 1542, il y a une première édition qui sera suivie d'une douzaine d'éditions par la suite, augmentées de nouvelles fables. Les voix sont souvent les mêmes. Et en 1587, il réédite ces fables, sauf que sur la page de titre, il va rajouter à l'usage de la jeunesse. Sans qu'il y ait rien de spécifique d'adapté pour la jeunesse, les voix sont les mêmes, les fables sont les mêmes, il n'y a pas de commentaires spécifiques. C'est simplement une façon d'atteindre peut-être un nouveau public. lorsqu'on a voulu trouver un substitut à cette pièce, eh bien, on n'en a pas trouvé. C'est-à-dire que pour le XVIe siècle, trouver un livre qui ne soit pas en latin et purement pédagogique, eh bien, on n'a pas trouvé. Donc les fables d'Ésope, bien évidemment l'imagerie d'Épinal, qui était pour beaucoup d'enfants du XIXe siècle la principale façon d'accéder aux récits imagés avec très très peu de texte. Et puis évidemment le succès des fables, c'est Benjamin Rabier, 1906, avec ici un dessin original qui est daté 1903 pour le recueil de Philippe Calendier. Dans cet ensemble de textes écrits pour les adultes et qui vont être adaptés pour enfants, il y a bien évidemment le Robinson, qui va donner lieu aux Robinsonnades, qui vont prospérer tout au long du XIXe siècle. Un des premiers, ça va être Camp, qui va créer le nouveau Robinson pour servir à l'amusement et à l'instruction des enfants de l'un et l'autre sexe. On est dans les années 1770 et la traduction française interviendra en 1785, je crois. Puis après, il y aura le Robinson suisse, au tout début du XIXe, puis le Robinson des Glaces, de Fouinet, et tout un tas de Robinsonnades dans le même sillage. De même, Gulliver va vite basculer dans la littérature jeunesse à partir de 1820, toujours adapté, c'est-à-dire qu'on retient de Gulliver que ces deux voyages extraordinaires. Là, ici, c'est une édition de Charles Lefaille, qui avait créé une bibliothèque qui est assez amusante puisqu'elle était accompagnée d'illustrations en figures découpées qui étaient détachables en fait du livre, ce qui fait que l'enfant pouvait raconter le livre rien qu'avec les petites vignettes qui ont un pied derrière et donc qui leur permettent de tenir debout. Et puis après, bien évidemment, on passe à la création littéraire spécifiquement pour les enfants. Alors, on a bien évidemment Stevenson avec les Beaux Trésors, Man Reed, qui sera aussi bien édité par Hachette que par Hetzel, et puis Jules Verne, dont on montre le manuscrit de 20 000 lieues sous les mers, qui est conservé par la Société de géographie en dépôt au département des cartes et plans. Et il y a aussi le manuscrit du Tour du Monde en 80 jours, qui est conservé dans le fonds Hetzel du département des manuscrits. Ce qui est assez regrettable, c'est que nous sommes parvenus à faire une exposition consacrée aux livres pour enfants où il n'y a qu'une seule pièce extraite du fonds Hetzel, des archives Hetzel, conservées au département des manuscrits, pour la simple raison que tout a été relié en grand folio. Et que le département des manuscrits refuse de démonter. Donc pour montrer une feuille comme ça, manuscrit, vous empruntez un grand folio que vous ouvrez avec une grande page blanche, donc ça vous prend une place énorme dans les vitrines. Voilà. Donc on montre 20 000 lieues sous les mers, et puis aussi une affiche qui est assez amusante, faite par Hetzel en 1889, où on voit Jules Verne à son bureau, qui est entouré des principaux personnages des voyages extraordinaires. Je ne reviens pas sur la stratégie d'Hetzel pour éditer Jules Verne et d'autres textes, à savoir la prépublication dans le magasin d'éducation et de récréation, en feuilleton, et puis après la vente, voilà, en 1918, sans illustration. Voilà. Donc généralement en milieu d'année, vers mai à peu près, et puis à l'approche des étrennes en fin d'année, l'édition du très beau livre Grand Inoctavo, illustré, un très beau cartonnage sur l'édition illustrée, et puis donc une typologie des cartonnages, je ne sais pas, il y a plus de 30 types de cartonnages, et ce qui permet en fait à un titre par exemple qui paraît en 1870 de rester sur le marché avec à chaque fois un nouveau cartonnage qui lui donne un air de neuf. Alors dans le sillage en fait de Jules Verne, il y a deux auteurs de moindre renommée, mais qui à l'époque était quand même important, c'est Paul Divoy, les 5 sous de la Varède, etc. Donc en fait, et puis l'autre auteur c'était Bousnard, Louis Bousnard, auteur d'un personnage qui s'appelait Friquet, qui était le gamin de Paris, dont on suivait les aventures à travers le monde, en Océanie et ailleurs. Ces deux auteurs, Paul Divoy, Louis Bousnard, un autre auteur qui est Jacques Olliot, Louis Jacques Olliot, et d'Henrit, que l'on verra plus tard, était édité dans le Journal des Voyages, qui est ici, un journal à la fois pour adolescents et pour adultes, qui terminera plus pour adultes, dans lequel il y avait à la fois des récits d'exploration, de voyages, donc des parties documentaires, et puis des romans d'aventure. Dans ce même domaine qui correspond donc à l'aventure, au voyage, on aborde assez vite la science-fiction, avec d'ailleurs l'anticipation chez Jules Verne, et puis plus peut-être la science-fiction avec André Laurie. C'est aussi là qu'on aborde la féerie, le merveilleux, et c'est aussi là que l'on peut mettre un petit éclairage sur ce que je considère comme très important chez Hetzel, parce que moins connu, parce que c'est sa première période, c'est le nouveau magasin des enfants qu'il a créé à partir de 1843 jusqu'en 1857, je crois, qui se compose de 18 titres en 20 volumes, et qui est une collection qui est importante, en ce sens qu'il partait l'idée qu'il fallait offrir aux enfants. Les enfants avaient le droit aux beaux livres, donc à des grands auteurs et à des grands illustrateurs. Donc pour ce nouveau magasin des enfants, il va faire appel à des auteurs qui sont Charles Nodier, Georges Sand, Dumas, Alphonse Karr. En plus pour le conte d'Hoffmann qui est repris par Dumas qui s'appelle Casse-Noisette, je vous invite à lire l'introduction qui est délicieuse, où Dumas raconte comment il a été ligoté par une ribambelle d'enfants sur un siège et qui l'ont forcé sous la menace à raconter une histoire. Et donc finalement il raconte l'histoire de Casse-Noisette. Et donc, pour illustrer ses livres, il va faire appel aux maîtres de la vignette romantique, et notamment à Bertal, qui sont les illustrateurs du moment. La thématique de cette collection, c'est le merveilleux. Et c'est en cela aussi que Hetzel fait un coup de maître, parce que c'est le retour du merveilleux dans la littérature enfantine, les fées ayant été bannies au XVIIIe siècle, avec des gens comme Berquin, entre autres, qui considéraient que la littérature enfantine devait être ancrée dans la réalité et le quotidien de l'enfant, et que toutes ces bizarreries et ces extravagances merveilleuses n'avaient pas lieu d'être. Qui donnera lieu en fait au terme de berquinade, très péjoratif pour cette littérature un peu insipide, cette tisane, comme disait Hetzel. Donc ici, c'est une affiche pour Tom Pouce, qui reprend une illustration de Bertal, où on voit Merlin, l'enchanteur et la fée. Donc Tom Pouce, c'est le deuxième titre de la collection qui paraît en 1944 et qui est adapté par Hetzel. Tom Pouce étant en fait appartenant au folklore anglais, et Hetzel m'a donné une adaptation dans sa collection. Donc le merveilleux, et puis toujours dans ces romans qui font rêver, c'est la section policière, avec ce qui sans doute est l'un des... Alors il y avait bien sûr les enquêtes de Sœur Jerry dans les années 30, éditées par Gauthier Langros, qui étaient des policiers proposés aux enfants à travers la bibliothèque de Suzette. Mais on considère quand même qu'un des premiers vrais polars et grands succès pour enfants, c'est Le Cheval sans tête, de Paul Bernat, qui est édité par GP, la Générale de Publicité, dans la collection Rouge et Or. 10 gamins de Louvigné qui mènent une enquête, qui se font voler leur cheval.
Sœur Jerry, pour vous, c'était des policiers.
Oui, Sœur Jerry, oui, c'était des policiers. Oui, tout à fait, c'était une série. Ce qui fait aussi l'originalité du Cheval sans tête, c'est qu'il est écrit, je dirais, dans le langage familier des enfants d'une banlieue de l'époque. Et alors, en opposition donc à cette littérature de voyage, cette littérature d'anticipation ou de policiers, il y a ce que l'on appelle le roman du quotidien, mais qui n'est pas de la berquinade, et qui peut être illustré d'une part par Jean-Paul Chopard, qui est un classique qui paraît à partir de 1831 dans le Journal des enfants, que l'on considère comme le premier roman feuilleton ou feuilleton roman pour enfants, c'est-à-dire qu'à l'origine, Louis Desnoyers, qui en est l'auteur, n'a pas son histoire écrite de A à Z, et qu'elle va un petit peu s'improviser au fil des publications dans le journal, pour donc au final faire un volume, qui sera notamment réédité par Robert avec des illustrations de Daumier, qui va donner un physique à ce Chopard assez remarquable. Et donc dans cette littérature du quotidien, il y a bien évidemment la comtesse de Ségur, qui est la principale dame de l'écurie féminine Hachette, avec Zénaïde Fleuriot et Zulma Caro. La Bibliothèque Rose apparaissait en 1856, à la suite en fait de la Bibliothèque des Chemins de Fer, qui avait été créée en 1953. Et la Bibliothèque des Chemins de Fer était divisée en 7 séries, et la 6e série était le livre pour enfants, et qui va donner naissance en 1956 à la Bibliothèque Rose Illustrée, qui a été publiée à la fois sous forme brochée avec sa couverture rose et en cartonnage d'éditeur tel que ici. Et donc ce qui est amusant dans le manuscrit donc, de la comtesse de Ségur pour les malheurs de Sophie, qu'on emprunte à un collectionneur privé, c'est que c'est un manuscrit de travail et à l'origine Sophie s'appelle Marie, que son cousin Paul est une cousine Pauline. Ça change complètement. et que donc elle cherche encore en fait ses personnages. Alors pour ce qui est du documentaire, là encore, les origines remontent au XVIIIe siècle avec une initiative qui est assez remarquable, qui s'appelle donc le portefeuille des enfants. Là encore, dans l'idée que l'on ne peut instruire les enfants et leur apprendre des choses qu'en leur montrant ces choses par l'image. Et c'est donc le portefeuille des enfants qui est la première encyclopédie pour les enfants, qui avait eu d'abord une version française, dont les gravures, les planches avaient été confiées à Cochin, et une version allemande, qu'on a davantage retenue parce que les planches sont coloriées, donc ça donne plus d'éclat, et qui est due à Bertour, qui a donc fait un portefeuille des enfants bilingue, en français et en allemand. Et pourquoi ça s'appelle portefeuille des enfants? Tout simplement parce que ça paraissait donc en portefeuille, avec des livraisons régulières, et qu'il n'y avait aucun suivi dans les planches, c'est-à-dire que dans une même livraison, on avait une pomme, enfin une planche sur la plus grosse pomme, sur les fleurs, sur les pyramides, et que c'était à l'enfant, une fois qu'il avait rassemblé ses planches, de construire sa propre encyclopédie, c'est-à-dire de lui donner un ordre et de la structurer. Ce qui est assez révolutionnaire pour l'époque, puisque donc on est en 1896 et jusqu'en 1821, donc pour Bertour. J'oubliais aussi ce que l'on montre, quand même pour parler de Madame le Prince de Beaumont, qui n'est pas véritablement une encyclopédie, c'est donc son magasin des enfants qu'elle publie d'abord à Londres en 1756, puis en France à Lyon deux années plus tard en 1758. Et son magasin des enfants, c'est pas tant une encyclopédie, on peut pas dire ça, puisqu'il n'y a pas d'illustration en plus, mais c'est une éducation complète pour les jeunes filles, qui est sous forme dialoguée, puisqu'elle met en scène en fait une gouvernante, Mademoiselle Bonne, je crois, et cinq petites filles qui sont âgées de 5 à 13 ans. Et sous forme de dialogue, elle va aborder beaucoup l'histoire sainte, c'est quand même la majeure partie de cet enseignement, mais aussi de la géographie, de l'histoire tout court, et puis un petit peu de science, et notamment elle va expliquer à ses fillettes ce que c'est que l'atome, ce que c'est aussi qu'un œuf, et des choses comme ça. Et c'est donc pour distraire aussi ces fillettes, qui sont assommées par autant de connaissances sous forme de dialogue, elle va faire des pauses sous forme de contes, et c'est donc parmi ces contes qu'on aura La Belle et la Bête, qui sera publiée donc par Madame le Prince de Beaumont, qu'elle l'a d'ailleurs emprunté à une autre dame. Mais c'est sa version qui est rentrée dans l'histoire. Donc, après le portefeuille des enfants, il y a une encyclopédie du 19e, du milieu du 19e siècle, qui était due à Delbrück, et qui était associée à un journal qui paraissait, qui était lié aux mères de famille et aussi aux enfants. Elle est abondamment illustrée. Ça s'appelle des récréations instructives, et c'était lié à un journal qui s'appelait L'Éducation Nouvelle, journal des mères et des enfants, qui paraît au milieu du 19e siècle. Et puis à côté donc des encyclopédies qui essayent de traiter tout en un volume, il y a des petites monographies ou des ouvrages de vulgarisation. Alors moi j'aime assez présenter La mythologie en action, qui date de 1821. Un ouvrage qui présente donc la mythologie aux enfants avec dans un petit étui, il y a le livret. Et le livret qui s'accompagne d'un décor et de figurines découpées et coloriées. Ce qui fait qu'au fur et à mesure qu'on lisait le descriptif, les attributs et la description des divinités, on les plaçait dans ce décor et on pouvait aussi se raconter des histoires. Mais évidemment, ce qui va ensuite avoir un succès à la fin du 19e, c'est les ouvrages de vulgarisation. Mais entre-temps, il faut quand même signaler Jean Massé, par exemple, avec son histoire du boucher de pain, 1865. L'édition par Froliche. Donc Jean Massé, l'histoire d'une bouchée de pain. Et à peu près au même moment, il y a un autre auteur aussi assez prolixe qui s'appelle Debo, qui va publier deux volumes qui s'appellent Les Pourquoi et les Parce que de Mademoiselle Suzanne. Mademoiselle Suzanne est une petite fille de 9 ans qui pose tout un tas de questions auxquelles le livre apporte tout un tas de réponses. Et donc à la fin du 19e siècle, il y a un petit peu dans le sillage de l'astronomie de Flammarion, des choses comme ça, c'est-à-dire des ouvrages de vulgarisation qui s'adressent aussi bien à des adultes qu'à un public adolescent. Et assez symptomatique est la collection qui est créée par Guibert et Noni, et qui était une collection qui abordait des sujets comme la navigation aérienne, l'océanographie, l'or, les entrailles de la Terre. À chaque fois, il était fait appel à un universitaire, donc quelqu'un de très compétent pour traiter la question, qui donne lieu donc à un gros volume épais, abondamment illustré par des gravures et des photographies. À l'origine, donc, la collection se veut tout public, et en fait, au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, elle finit en 1904 comme livre de prix pour la ville de Paris, donc remis dans les écoles, s'orientant plus vers un public adolescent. Après les documentaires, la presse, le plus ancien journal pour enfants, c'est L'Ami des enfants de Berquin, qui paraît en 1782-1783. Il y a 24 livraisons, une livraison par mois, 144 pages, donc assez formatée, pas d'illustration, que du texte, et donc de courtes histoires ancrées dans la réalité. Cet Ami des enfants sera abondamment réédité tout au long du 19e siècle, cette fois-ci non plus sous forme de périodique, mais dans un gros volume. Il y a ici une affiche pour l'Ami des enfants qui témoigne de son succès au 19e. Ici, le frontispice de la Semaine des enfants chez Hachette, créé en 1857. La réponse à la Semaine des enfants d'Hachette, c'est le magasin d'éducation et de récréation, créé en mars 1964 par Hetzel et Massé, rejoint par la suite par Jules Verne, qui propose donc des fictions en feuilleton, donc principalement Jules Verne, tandis que la comtesse de Ségur alimente la Semaine des enfants chez Hachette. Jules Verne, mais aussi Laurie et Hetzel, qui adaptent beaucoup de classiques tels que Les Patins d'argent, Maroussia, etc. Pour le XXe siècle, Bécassine, bien sûr, qui apparaît dans La Semaine de Suzette, créée en 1905. Et puis, la petite révolution qui va arriver en 1908, c'est la création de L'Épatante par la maison Offenstadt, la société d'édition parisienne. L'Épatante, qui va être une publication très bon marché, qui va mettre en avant des héros pas très recommandables, puisque donc les pieds nickelés vont très tôt apparaître.
On arrive au petit voyou.
Voilà. Donc c'est Filochard, Ribouldingue et Croquignol, qui ne sont pas vraiment des modèles à imiter pour les enfants, donc ça va faire couler beaucoup d'encre. D'autant qu'en 1909, l'éditeur Ressilly, cette fois-ci un journal pour filles, hein, qui s'appelle Fillette, dans lequel il y aura L'Espiègle Lily de Joval. 1934, c'est Mickey, avec l'invasion, je dirais, de la bande dessinée américaine dans les périodiques français. Périodiques français qui étaient occupés, Benjamin, par exemple, de Jaboun, qui calquait, en fait, le journal de papa assez austère. Il y avait aussi Cœur Vaillant, qui apparaît la même année que Benjamin, par le comité des œuvres catholiques, en fait, qui deviendra par la suite le groupe Fleurus. Et donc, Mickey détonne forcément dans ce paysage périodique français. Et puis, suivront après tous les périodiques franco-belges, Spirou, bien sûr, qui a fêté ses 70 ans, et puis le journal de Tintin, qui arrive. Ensuite, pour aborder le dernier aspect, qui est la relation entre le livre pour enfants, l'enfant et l'adulte, et comment, en fait, parfois, on est amené à se servir du livre pour enfants et un petit peu à le manipuler, on a abordé les livres qui font l'éducation du prince, qui font l'éducation religieuse de l'enfant, son éducation politique et son éducation morale. Donc, le manuscrit du Télémaque de Fénelon, avec le portrait de Fénelon qui est dans le frontispice, qui est conservé au département des manuscrits. Le Télémaque qui est l'un des livres les plus édités, même si aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ce ne sont pas leurs lectures de chevet. Et puis il y a un genre aussi qui apparaît dès le XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe siècle, et qui perdure jusqu'au XXe, qu'on peut qualifier de modèle de vie. Par exemple, ce que faisait Pierre Blanchard à la fin du XVIIIe et au début du XXe, tel que le Plutarque de la jeunesse, ou aussi d'autres recueils d'enfants modèles ou de célébrités modèles dont on retrace la jeunesse, comme quoi ils étaient des enfants imitables en tout point et qui sont devenus des hommes remarquables. Ça perdure donc tout au long du 19e et c'est amusant parce qu'au 20e siècle, ça devient dans la Bibliothèque verte 8 champions français qui sont cette fois-ci des champions sportifs. C'est-à-dire que les modèles de vie évoluent, ce ne sont plus des panthéons des hommes célèbres, ça devient des champions sportifs que l'on offre en modèle aux enfants. Et parmi aussi ces modèles de vie, évidemment, il y a Napoléon. Ici, c'est une série de grandes images qui servaient à illustrer la classe et qui retraçaient l'histoire de France. Et donc là, c'est le personnage préféré de Jobs, à savoir Napoléon, pour lequel il a fait 3 albums. Là, c'est assez amusant parce qu'il traite à la 2 tailles ce Napoléon qui voit se dessiner dans le ciel ses gloires passées. Pour ce qui est de la formation religieuse, on a mis en pendant en fait 2 types de publications. D'une part, une publication de Martial Ardan, mais on aurait pu prendre Le Fort ou Barbou ou Mame à Tours. C'est-à-dire que toute la première moitié du 19e siècle est dominée par des éditeurs qui sont établis en province et qui publient des collections qui s'intitulent bibliothèques, qui sont bibliothèques morales et religieuses, qui portent l'imprimatur de l'évêque du lieu, qui sont donc des ouvrages de piété à caractère moral très prononcé. Et qui ont par contre pour caractéristique au niveau de l'aspect matériel du livre d'avoir de très jolis cartonnages. Alors très souvent en papier, doré et gaufré avec une petite vignette au milieu, puis après en percaline. Là c'est Michel le Savoyard ou La Piété. C'est-à-dire que très souvent il y avait un titre alternatif qui mettait en ressort une qualité morale. Et donc en pendant de ce livre, on met Le Tour de la France par 2 enfants, qui était le manuel scolaire à partir de 1877 et qui est intéressant de suivre à travers ces différentes rééditions, puisque dans l'édition originale de 1977, on a d'une part des images à travers l'illustration d'une France avec ses clochers, et puis surtout il y a une scène au début où les 2 enfants qui viennent de quitter leur ville, qui est Falsbourg, et qui gagnent la France, vont s'arrêter, ils vont passer une nuit à la Belle Étoile sous un sapin, et il y a une scène de prière qui est décrite dans le texte, les enfants s'arrêtent pour prier. Et au fil des éditions, des lois scolaires, puis des lois combes, voilà, ça va complètement se laïciser, et aussi bien dans l'image que dans le texte, tout va être gommé. Pour ce qui est de l'éducation morale, il y a 2 types de livres. Il y a ce qu'on appelle les civilités, qui remontent au XVIe siècle, qui sont repris d'Erasme. Alors Erasme s'adressait directement à l'enfant, et dans son petit ouvrage sur la civilité, il lui apprenait à comment se comporter à l'église, comment tenir sa chambre, comment s'adresser à des gens que l'on rencontre, et puis une large partie sur comment se comporter à table aussi. Où l'on voit qu'en fait les choses n'ont pas changé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se basculer sur sa chaise, il ne faut pas lécher son assiette, il ne faut pas ronger les os, enfin que c'est assez plein d'humour. Et donc ces civilités perdurent, puisqu'en 1887, Boutet de Montvel fait une civilité puérile sous forme d'album destiné aux enfants. Et puis l'autre façon d'apprendre aux enfants à travers les livres à bien se comporter, c'est les infortunes d'eux. C'est-à-dire à travers un album, montrer les infortunes qui arrivent aux enfants qui sont passages. Alors dans ce type, il y a les infortunes de Touche-à-Tout par Bertal, il y a les gourmandises de Charlotte par Job, enfin il y a tout un tas comme ça d'albums qui mettent en avant un enfant auquel il arrive tout un tas d'infortunes et de malheurs parce qu'il n'est pas un enfant sage. Sur le même principe, venu d'Allemagne, il a un recueil construit autour de Strubelpeter, c'est-à-dire de Pierre Lébouriffé. C'est un recueil de 8 historiettes, je crois. Donc Pierre Lébouriffé étant cet enfant malpropre, hein, qui laisse pousser ses ongles, sa chevelure, etc. Un tas de petites aventures qui arrivent à des enfants, et notamment dans ce recueil qui est édité milieu 19e siècle, une petite histoire qui dénonce un comportement raciste, puisqu'il y a trois petits enfants qui se moquent d'un enfant noir et ils vont tomber face à face avec un Lustucru, qui est donc un grand personnage un petit peu inquiétant. Et ce Lustucru va s'emparer des trois enfants blancs qu'il va plonger dans un encrier. Et ensuite, il va leur montrer qu'ils sont aussi noirs que le petit enfant noir dont il n'a pas lieu de se moquer. Tout cela dans les années, je crois qu'on est en 1864. Voilà, donc l'éducation morale, et puis on en vient à l'éducation politique. Elle remonte dans le domaine du livre pour enfants, principalement à la période révolutionnaire, où on a énormément d'abécédaires, de constitutions destinées aux enfants, de textes qui leur expliquent le devoir patriotique sous forme de conversation. La révolution constitue un premier temps fort. Et puis évidemment, la perte de l'Alsace-Lorraine et la période qui mène jusqu'à la Première Guerre mondiale va donner lieu aussi à tout un tas de livres. D'une part, la série des albums historiques qui quand même consiste à retracer les gloires nationales de personnages comme Louis XIV, comme Richelieu, etc., et qui participent à cette littérature patriotique. Et puis il y a bien évidemment Ancy et sa série d'albums pour les enfants. Mon village, qui paraît en 1913, il y aura ensuite l'Alsace heureuse. Mon village où ne m'oubliez pas, cette pauvre petite Alsacienne qui supplie les petits Français de ne pas l'oublier. Et puis, j'ai prononcé tout à l'heure le nom de Danrit, qui était en fait capitaine Drian, qui publiait sous le pseudonyme de Danrit dans le journal des voyages, et qui se caractérise par une littérature plus que patriotique, c'est-à-dire militariste, très sanguinaire et très raciste. Je cite Danrit parce qu'il me semble que dans le catalogue de la bibliothèque, vous avez au moins un, si ce n'est plusieurs livres du petit... Et alors en fait, si on regarde un peu de près cette affiche pour l'invasion jaune, qui paraît en fait en 1905, pareil, on voit que les Japonais pénètrent dans Paris avec le grand palais qui brûle, puis en tête d'un cortège, il y a deux Occidentaux qui sont mains liées, et puis tout un tas de victimes qui ont été achevées dans le sang, au premier plan. Voilà. Alors avec la Première Guerre mondiale, là encore, on a une explosion du livre pour enfants politique. Et quelqu'un par exemple comme André Hellé, qui a fait de remarquables livres pour enfants, notamment Une arche de Noé, réédité sous le titre de Drôle de bête, Grosse bête et petite bête, un auteur remarquable, un illustrateur remarquable dans le domaine du livre pour enfants, et qui verse durant la Première Guerre mondiale dans le bourrage de crâne complet, à travers cet alphabet de la Grande Guerre, qui est publié en 16 ou en 17, où toutes les lettres de l'alphabet renvoient à un registre guerrier, donc M pour mitrailleuse, T pour tranchée, etc. Mais avec tout ça dans un côté idyllique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort, enfin c'est une guerre qui se passe très bien pour les Français, bien sûr, mais c'est vraiment du bourrage de crâne très affirmé. Donc Première Guerre mondiale, alors tout à l'heure Nicolas parlait évidemment du fameux abécédaire du maréchal Pétain. Toutes les lettres donc sont associées à une évocation du maréchal. Donc par exemple, la lettre K, c'est le képi du maréchal avec ses étoiles. Et la plus saisissante, ce sont les yeux pour la lettre Y, avec ce regard du maréchal qui est fascinant. Alors toujours pour cette période de la Seconde Guerre mondiale, on montre également comme conséquence de l'application de la liste Otto. La liste Otto étant donc cette liste par Otto Abetz qui condamnait des ouvrages soit d'auteurs juifs ou des ouvrages jugés être une attaque pour l'Allemagne. Donc c'est classé par éditeur et par exemple chez Hachette, il y a Petite Princesse, je ne sais pas trop pourquoi il faut être heureux de Petite Princesse pour ça. Et il y a les 500 millions de la Begum de Jules Verne pour son côté caricatural du salon. Et puis, dans le domaine du livre pour enfants, l'autre aspect quand même qui fait pendant à l'abécédaire de Pétain, c'est La bête est morte de Calvo, qui paraît à l'été 44, qui est une bande dessinée qui retrace la Seconde Guerre mondiale, vécue par des animaux, racontée par des animaux. Donc la France, ce sont deux petits lapins. Évidemment, l'Allemagne nazie, c'est le grand méchant loup. La Russie, ce sont les ours polaires, etc. Et donc, il y a deux fascicules, en fait, qui sont édités par GP à nouveau, le Président général. Alors, enfin, les livres à ne pas toucher. Alors, d'une part, les livres de prix, bien sûr, avec leur étiquette d'extra MIO, et puis souvent les armes de la ville, notamment de Paris, qui sont portées sur le plat supérieur. Donc, les livres de prix donc, qui étaient remis dans les écoles et qui va être un marché prospère pour les éditeurs, surtout après la loi Guizot de 1833. Auparavant, les livres de prix étaient quand même réservés au collège. Le développement de l'enseignement primaire va faire se diversifier ce secteur. Les livres d'étrennes, qui sont un petit peu plus chics, qui sont donc offerts pour le 1er janvier. Et alors là, on a toute une paloplie. On a à la fois les cartonnages romantiques, qui sont édités notamment par le Hubi, retouchés dans un sens catholique, mettait en avant sur cet aspect. Et livre en cartonnage d'éditeur. Bien évidemment, le très grand livre, très cher pour les petits-enfants, édité par Hetzel en 1861, Les Contes de Perrault. Il est immense. Voilà. Mais ce qui est amusant, c'est que dans sa préface, Hetzel met en avant qu'il assume complètement ce très grand livre, très cher pour les petits-enfants. Et puis ça qui est amusant, qui est un musée des dames et des demoiselles, c'est-à-dire une petite boîte romantique comme on les faisait et qui contenait 6 ou 8 petits livres sur un thème, donc là c'est autour de la minéralogie, des fleurs et des oiseaux. Un Matthias Sandorf, ça c'est un Jules Verne tel qu'on l'offrait aux étrennes, évidemment dans son cartonnage d'éditeur. Et puis un album historique pour faire pendant, c'est un Richelieu, Toulouse et le Loir. Et c'est amusant parce qu'en fait c'est l'exemplaire de Philippe Barrès. Dans le fonds Barrès, qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France, il y a un certain nombre de livres pour enfants. Et dans cet album, sur la garde volante, Philippe Barrès, qui devait avoir 8 ou 9 ans, je ne sais pas, de son écriture très malhabile, de sa main d'enfant, a mis « Offert à Philippe Barrès pour le 1er janvier 1906 par le prince de Poincaroy ». Le livre d'artiste, eh bien, il est clos essentiellement après la Première Guerre mondiale et il donne lieu à des livres de peintres pour les enfants. Dans ce domaine, il y a la galerie Jeanne Boucher qui va éditer 2 livres pour enfants tirés à 300 exemplaires et réalisés par 2 grands peintres, l'un qui est Juan Miró, qui illustre « Il était une petite pipe » de Lise Hirtz, et puis Viera da Silva, qui illustre « Coeco, les deux Esquimaux », également tiré à 300 exemplaires, et qui est amusant parce que c'est un livre à tirage limité, édité par une galerie d'art, par un peintre qui est à ses débuts, mais enfin quand même un peintre. Et à la fin, il y a 2 planches à découper, donc une pratique du père Castor. Alors très rapidement, juste les héros des livres pour enfants pour terminer. Gédéon, bien sûr, Benjamin Rabier. Et avant qu'il ne... Oui, c'est un canard, avec donc les petites histoires de la basse-cour. Et avant que Benjamin Rabier ne crée ce personnage de Gédéon sous forme d'album, il avait fait des jouets, 10 ans plus tôt, des animaux de la ferme sous forme de jouets pour les grands magasins du printemps.
Ce sont les albums qui sont produits dérivés.
Exactement,
de...
oui.
Ah oui, c'est intéressant.
Oui, oui. Et André Lé, c'est pareil, il fait son arche de Noé en jouet avec tous les animaux en bois en 1911 et il fait l'album après. Babar, que l'on retrouve pour le château de Babar, donc la maquette. Et puis Pierre Lapin, ça c'est intéressant parce que Pierre Lapin ne sera traduit en France qu'en 1924, mais très peu diffusé parce qu'en fait, comme c'est souvent le cas pour les Anglais, c'est l'éditeur anglais qui fera l'édition française et la diffusion. Donc très mal diffusé. Et la Bibliothèque de l'Heure Joyeuse, qui a été créée en 1924, donc une bibliothèque enfantine, la première en fait, donc c'est à Paris, donc c'est rue des Prêtres Saint-Sévin, n'avait pas cette traduction française. Donc du coup, elle va faire sa propre traduction sur un jeu de fiches et elle collera les illustrations de Béatrix Potter. Donc c'est un livre à la main. Et en fait, tout simplement, parce que les Bibliothèques de l'Heure Joyeuse avaient saisi l'aspect révolutionnaire de ce petit livre, de petite taille, racontant une histoire avec ce petit lapin dans lequel les enfants s'identifient complètement. Mishka, bien sûr, à propos des héros des livres pour enfants, on a repris dans des thématiques, donc il y a l'animal anthropomorphe, c'est Babar, c'est Pierre Lapin. Ensuite, il y a l'animal à comportement humain, c'est Bambi par exemple. Et puis après, une autre thématique qui est importante, c'est le jouet animé. Enfin, la boîte à joujoux, c'est le casse-noisette, c'est Mishka, bien sûr, qui part en 1940 dans le père Castor. C'est la boîte à joujoux d'André Hellé, dont la Bibliothèque Musée de l'Opéra conserve les dessins originaux. Et c'est Calvin et Hobbes pour les enfants d'aujourd'hui. Autre thématique, autre famille de héros, c'est les personnages du monde merveilleux. Alice, avec l'édition originale de la traduction française, 1869. Là encore, pas déposée en France parce qu'elle est éditée par Macmillan. Dans le domaine du merveilleux, Les vacances de Zéphyr, qui est un album atypique de Babar, parce que Babar n'y apparaît pas et on suit Zéphyr dans une aventure qui est un conte de fées, à la Lewis Carroll en fait, puisqu'on est conduit au pays de Polomoche et des Gogotes, qui sont des monstres un peu hybrides. Le Petit Prince, avec un dessin original de Saint-Exupéry, qui est conservé avec la dactylographie. Et puis, alors, je vous disais tout à l'heure qu'on fait côtoyer, certains diraient, le meilleur et le pire. Alors, pour certains, le pire, c'est Martine. Mais nous, on l'a mis en exergue parce que Martine, c'est une cinquantaine d'albums, c'est 50 millions d'exemplaires vendus. C'est un succès qui est indéniable. Après, on aime, on n'aime pas, on trouve que c'est médiocre ou pas. Et Martine, c'est la petite fille modèle. C'est la perfection incarnée. Elle est sage, elle est polie, elle sait tout faire. Plus méconnue, qui date des années 30, c'est Nan de André Lichtenberger, mais qui n'a pas eu le même succès que Martine. On l'a un peu oublié. En pendant des enfants modèles, il y a les sales gosses, c'est-à-dire les bons petits diables pour reprendre la comtesse de Ségur. Alors Buster Brown, qui était en fait un personnage créé aux États-Unis sous forme de bande dessinée et diffusé par Hachette, à la fois dans le périodique qui s'appelle Mon Journal, et puis sous forme d'album. C'est un enfant de la bourgeoisie qui fait les 400 coups avec son chien Tiger. Et puis là, toujours pour l'enfant terrible, qui est quand même une thématique importante dans le domaine du livre pour enfants, c'est Auguste à mauvais caractère, qui est un livre remarquable, qui date de 1913, et qui est un très grand format, bien avant Babar, et qui est illustré au pochoir. Donc c'est un enfant qui martyrise ses jouets, qui martyrise son chat, un enfant impossible jusqu'au jour où, dans un cauchemar, il va rêver que tout ce beau monde se révolte contre lui, et il devient l'arroseur arrosé, et du coup il fait amende honorable.
C'est comme l'enfant des cartilages.
Oui. Pour les drôles de Zig, Zig et Puce, bien sûr, qui paraît dans le supplément d'Excelsior, qui s'appelait Le Dimanche Illustré. Et puis juste à côté, Gaston Lagaffe. Il apparaît dans Spirou, j'allais dire 55, mais oui. Et qui ne se démode pas non plus, Gaston Lagaffe. Et parmi donc les autres thématiques, les enfants terribles, il y a les orphelins. L'orphelin est une figure assez typique, que ce soit Heidi, Rémi sans famille, Mowgli dans Le Livre de la Jungle, puis Belle et Sébastien pour les années 60. Que Sans famille est le plus connu d'Hector Malot avec le personnage de Rémi, mais on montre également En famille avec son pendant féminin
oui,
et terrible,
c'est juste, oui.
Et qui est un véritable tableau social de la misère à la fin du 19e siècle et aussi de la réponse catholique qui était le paternalisme social. Ce qui fait pendant aux orphelins, c'est les groupes de jeunes, alors qu'on va retrouver dans le président de club, le club des 5 qui arrive en 55, le club des 7 en 57, toutes ces bandes de jeunes qui vivent des aventures. Ensuite, il y a les jeunes aventuriers. Alors, c'est bien sûr là on trouve Tintin. On trouve ce qui fera aussi les succès de la Bibliothèque Rose et de la Bibliothèque Verte. Pour les filles, il y avait Fantomette qui apparaît en 60 et Alice de Caroline Quinn. Et puis pour les garçons, il y avait Michel. Voilà. Il y avait les 6 compagnons aussi. Voilà, oui. Pour les aventuriers adultes, il y a la figure du trappeur, Davy Crockett, mais aussi plus méconnu, Daniel Boone, qui a donné lieu à un très joli album édité par Esther Avril aux éditions Domino Press dans les années 30, avec les illustrations de Rojankowski. Et pour finir, c'est aussi les super-héros, les justiciers, qui est la dernière des 12 familles que l'on présente, avec Lucky Luke, Zorro, Prince Vaillant, qui apparaissait dans Hopla, je crois, qui était un périodique.
Dès les années 30,
voilà.
Il faut aller à Tobiac. C'est le 11 avril.